Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Au menu de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec notre motard luttant de la Fédération Française des Motards en Colère. Guy, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors toujours ce gros... Le gros sujet, hein,
le gros dossier, contrôle technique.
Ce fameux contrôle technique.
On n'a pas fini d'en parler et il faut maintenir la pression. Voilà, même s'il y a des informations, on va dire pas trop mauvaises, il faut maintenir la pression. C'est pas gagné.
Alors le mois dernier, on était un peu pessimiste quand même parce qu'on avait dit c'était un peu torché.
Oui,
Et finalement non.
Mais la guerre n'est pas finie.
C'est pas fini encore.
Donc il faut maintenir la pression. On parlera de l'étiloteuse, enfin de les divers sujets, de brassard aussi.
Très bien. Au sommaire également, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Christophe Tillemant, qui est le correspondant Moto Magazine pour la région lilloise. Christophe nous propose tous les premiers dimanches du mois le sommaire du mag. Christophe, bonjour.
Bonjour Amiche.
Je te pose pas la question du scooter électrique. Hein. Parce que tout le monde sait maintenant que tu roules en électrique.
Que tu roulais. Voilà. Mais bon, on parlera d'électrique, hein, parce qu'il y a un sujet qui a été abordé là justement sur l'environnement et le deux roues. Hein. Comment protéger nos villes des pollutions. Et donc il y a un dossier qui évoque justement l'électrique et les performances aujourd'hui des nouvelles machines.
On a prévu de faire une mission sur ces scooters, ces motos. Enfin, le moto, pour l'instant, il n'y en a pas de moto.
Si, tout à l'heure, j'en parlerai.
D'accord.
On passera en revue. Il y a le salon de Cologne là, qui vient de se terminer. Il y a un super compte-rendu, d'ailleurs, qui a été fait. Et justement, il y a des machines qui sont tout à fait capables de concurrencer. Alors, après... Chacun y trouve le plaisir qu'il veut, hein, mais oui, on en parlera.
Très bien.
Three or four.
magazine de la moto sur Campus Lille dimanche de 11h à midi. Tout de suite, nous allons commencer avec notre motard luttant de la Fédé. Guy, on va parler de ce fameux contrôle technique qui...
Voilà,
on ne sait pas trop.
Non, on ne sait pas trop pour le moment. On va rappeler un peu le contexte, parce que peut-être que tout le monde n'a pas entendu. Et c'est bon de rappeler comment ça se passe. Un jour, on fera aussi une émission sur l'Europe et ça aura des liens. Alors, comment c'est arrivé ? Le 12 juillet, dernier, la Commission européenne a proposé de généraliser le contrôle technique à tous les véhicules, donc y compris la moto. Alors comment c'est arrivé ? En fait, ça se discute au sein de la Commission européenne et les gens qui siègent à la Commission européenne font appel à des experts. Typiquement, on avait eu l'occasion de rencontrer un des acteurs de la Commission européenne qui s'était occupé de ce dossier. Et j'avais regardé un peu, il avait donné son nom, j'avais regardé un peu ce qu'il avait fait les années précédentes. En 2011, il s'était occupé du dossier de la pêche. Donc ça donne un petit peu la manière dont les choses se passent. Et donc nécessairement, ces gens-là n'ont pas la connaissance fine de comment se pilote une bécane, ce que ça représente, etc. Donc font appel à des experts. Et pour cette fameuse proposition de loi, ils ont fait appel notamment à DECRA, que vous connaissez forcément, qui est une boîte allemande, multinationale forcément, et qui s'occupe du contrôle technique des bagnoles aujourd'hui, enfin des véhicules 4 roues, bagnoles et camions. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait 3 rapports de leur part qui étaient retenus dans le dossier de la produit par la Commission. Donc on connaît pas, en tout cas moi j'ai pas ces éléments-là, le contenu des pièces sur lequel la Commission s'est appuyée. Je ne sais pas si on peut les avoir. Enfin, on va voir si jamais on peut avoir ce genre d'informations avec le BN, mais aujourd'hui, on ne les a pas. En tout cas, ils ont produit des stats sur 3 années différentes. Et donc, la Commission a émis la version définitive de cette proposition de loi à la mi-juillet, le 12 juillet dernier. Donc, la FEMA, la Fédération européenne des associations de motocyclistes, a mis le doigt sur le dossier et forcément ça a fait un peu du buzz comme on dit maintenant et la Fédé en a eu connaissance. Donc voilà comment ça s'est passé et cette proposition de loi donc si elle est acceptée par les élus européens, ça entrera en application dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc voilà comment ça se décide. Et on va voir, après un morceau de musique peut-être, comment c'est décliné en fait dans chaque pays et ce que chaque pays a la possibilité de faire pour prendre...
D'aménager un peu la décision de la Commission européenne.
Exactement.
De la Commission européenne.
De la Commission européenne, tout à fait.
Thank you.
La moto, c'est sur Campus Lille le dimanche de 11h à midi. Christophe, justement, puisqu'on parle avec Guy de ce fameux contrôle technique, je pense qu'il y a une page pleine sur la manif qui a eu lieu. Donc,
voilà, le journal revient effectivement
à Bruxelles.
Sur la journée du 22 septembre, hein, puisqu'il y a eu une mobilisation très forte. Il y a eu 40 000 motards donc, qui se sont rassemblés en France et en Belgique. Hein, donc, ils étaient 10 000. En fait, il y avait deux manifestations sur Bruxelles à l'appel de différentes organisations. Mais il y a quand même 6000 personnes qui se sont pointées à l'Atomium et devant donc la Commission européenne pour manifester lors des approbations par rapport à ce dossier contrôle technique. Alors ce qu'on note dans l'article, on revient sur la désapprobation aussi des sénateurs, hein, de la Commission des affaires européennes, qui désapprouve ce projet, hein, au motif que la sécurité routière, le lien avec la sécurité routière n'est pas avéré et que ça pèserait de façon démesurée sur les particuliers. Hein, ce sont les raisons qui sont avancées
par le Sénat français, hein, la commission du Sénat français.
Alors là, effectivement, on parle bien d'une commission du Sénat français. Et donc cette position plutôt, si elle était confirmée par la commission économique du Sénat, ferait donc le troisième pays après la Suède et les Pays-Bas qui désapprouve donc cette mesure d'imposer le contrôle technique. Donc on peut penser...
Est-ce que ça peut faire changer le décret qui a déjà été promulgué ?
Parce l'éclairage...
qu'il y a des pays où le contrôle technique est appliqué.
Voilà. Alors dans l'éclairage quand même, il est évoqué que cette disposition de contrôle technique pourrait partir à la corbeille si on arrivait à convaincre plusieurs pays parmi les 9, parce que c'est les 9 qui sont concernés, qui se opposeraient donc à... Mais il faut un renversement de tendance, effectivement, parce que l'harmonisation fait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la tendance de généralisation du contrôle technique. Voilà la situation. Tu évoquais tout à l'heure les élus de l'Assemblée nationale.
Voilà. En complément, donc, on peut citer la position des députés qui semblent embrayer de la même manière. Alors c'est ça qui donnait espoir quand en début d'émission on en parlait. Effectivement, ça, c'est un peu plus positif que ce qu'on avait pu voir et dire le mois dernier.
Le mois passé, oui.
Néanmoins, c'est pas gagné. Hein. Christophe vient de le décrire précisément. Il faut qu'il y ait d'autres pays qui bougent aussi et qui refusent cette loi. Alors, ce que disent les députés, en fait, c'est que dit en des mots simples, on va dire, c'est que la proposition de loi va trop loin et n'est pas du domaine de l'Union européenne, de la législation qui est prônée par l'Union européenne. En gros, c'est le côté de transposition et le côté d'application au sein du pays. C'est-à-dire que cette loi irait trop loin dans le cadre juridique de chacun des pays et l'Union européenne considérant que les pays ne font pas suffisamment de choses. Et donc c'est comme ça que la Commission européenne peut proposer quelque chose en disant, vu que vous, les pays, vous n'appliquez pas suffisamment de lois, de directives au sens large pour améliorer la sécurité routière, pour essayer d'aller dans des meilleurs chiffres, eh bien, nous, Union européenne, on va proposer un projet de loi. Et chaque pays peut dire « Non, vous allez trop loin ». Alors c'est un débat, après, qui va se passer entre les États et l'Union européenne. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les députés européens, donc que nous, citoyens, élisons régulièrement. Et c'est un travail que l'on a à faire, nous, très concrètement aujourd'hui, c'est-à-dire aller mobiliser ces députés européens pour expliquer que ce que propose la Commission...
Pardon. Nous citoyens, aller mobiliser, leur dire
exactement,
qu'on n'est pas d'accord sur.
Voilà, parce que le député européen, je veux dire quelque part, et comme la Commission européenne, ce ne sont pas des experts dans tous les domaines, ça peut se comprendre, c'est humain, et donc à nous d'aller les voir et d'aller leur expliquer que ce que la Commission européenne propose ne convient pas. En particulier les chiffres, on va le voir aussi après un autre morceau de musique parce que c'est un peu long, mais ce que la Commission européenne dit, elle le dit par rapport à des chiffres qui pour nous sont complètement faux, sont totalement erronés. Et donc Décra a embrayé là-dessus et fait du lobbying, a embrayé sur ces chiffres, les a un peu gonflés, enfin, ou un peu triturés pour que ça passe à l'avantage de la sécurité routière. Donc voilà comment il faut qu'on travaille. Donc comme disait Christophe, il faut que d'autres pays s'engagent sur la même direction et que nous, citoyens, nous allons expliquer aux députés européens ce qu'il en est exactement.
Il s'exprime d'ailleurs, il y a trois députés qui s'expriment dans les colonnes du journal, justement, et qui donnent leur position par rapport à ce sujet.
Bon, toujours ça, c'est-à-dire dans le mag de novembre.
Voilà.
Hein ?
Dans tous les bons kiosques ou sur abonnement.
Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's just running wild. Butterflies and zebras, moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind.
Le monde de la moto avec notre motard luttant de la Fédération française des motards en colère, Guy. Guy, on va terminer sur ce, on va clôturer sur ce fameux dossier là du contrôle technique.
Voilà, du, hein, du rapport
avec cette société là qui s'appelle Desgrin, hein, qui
Desgrin Automotive,
hein, qui voilà. A été sollicité donc par la Commission européenne et pour qui pouvoir donner à son avis.
Ou qui s'est présenté à la Commission pour, hein, ça s'appelle du lobbying. Donc on ne sait pas qui a appelé l'autre. Mais en tout cas, elle a fait un travail important de lobbying et ça a marché entre guillemets jusqu'à maintenant puisque la proposition de loi de la Commission européenne a bien pris en compte son desiderata. Alors, ce qui est intéressant de savoir, parce que quand on dit qu'on n'est pas d'accord, ben, il faut donner des arguments et donc voilà comment Décra a présenté l'affaire. Alors, l'argument forcément qui est avancé par eux, c'est que le contrôle technique va réduire le nombre de tués sur les routes. Très facile à dire, mais quand on creuse...
Il faut avancer des chiffres.
Des vrais, voilà, ouais. Et pas les tordre dans tous les sens pour faire valoir une opinion qui va à l'encontre, en fait, du but visé. Et donc, l'affirmation est effectivement fausse, parce que les associations de motards ont quand même quelques rapports à leur disposition. On a déjà parlé ici de nombreuses fois, le MAIDS. Le rapport MAIDS, donc, est un rapport qui a été établi au début des années 2000 sur 5 pays de l'Union européenne. Donc, c'est pas quelqu'un qui est, je veux dire, c'est pas une société qui est allée faire des stats ou des études, hein. C'est vraiment européen, donc là aussi. Et pour chez nous, pour mémoire, ça s'est passé dans l'Essonne, dans le département de l'Essonne, l'étude. Et donc, cette étude a montré, on l'a déjà dit, que les défaillances techniques sont pour 0,3% identifié comme étant à l'origine de l'accident. 0,3%. Donc c'est rien. Hein. C'est voilà. Alors dans une étude statistique, là ça devient un peu compliqué. Il y a plusieurs niveaux et plusieurs facteurs en fait qui interviennent et on retient les différents facteurs. Donc il y a le facteur direct en fait, facteur premier, qui est la défaillance technique constatée et avérée. Et ensuite il y a des facteurs secondaires d'accident. C'est-à-dire que c'est pas la cause première de l'accident. Et donc, la défaillance technique, dans un second temps, n'est qu'à hauteur de 1,6%. Et les autres facteurs, donc encore plus lointains, c'est-à-dire qu'il y a eu dérapage ou je ne sais quoi, enfin d'autres circonstances majeures qui ont provoqué l'accident, et on peut trouver une défaillance technique au troisième rang à hauteur de 5%. Et donc la cause primaire, qui est l'élément qui a déclenché l'accident, n'est pas à hauteur de 5%, comme le dit Décra. Et Décra tord les chiffres, présente les chiffres d'une certaine manière pour faire croire que la défaillance technique est à hauteur de 5% des cas d'accident. Donc c'est faux. Et donc il faut qu'on se batte là-dessus. Ce sont les facteurs du troisième ordre. Et il faut aller démontrer et causer, comme on disait tout à l'heure, avec les députés européens pour leur expliquer que les défaillances techniques sont vraiment très minimes. Alors, pour ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps et qui ont un peu de mémoire, vous vous souvenez qu'on a parlé à plusieurs reprises du professeur Gault, Vous l'avez entendu certainement à la télé ou à la radio. Et donc, on peut reprendre son propos par rapport à l'accidentologie liée aux défaillances techniques. Claude Gaux cite dans un article de Raphaël Rivet dans Le Monde, daté du 24 septembre 2012. Donc c'est récent, c'est pas des informations anciennes. Hein. Ce qui fait la différence, c'est l'amélioration technique des véhicules neufs, alors que le contrôle technique n'a pas prouvé son efficacité. C'est quand même, venant de Gaux, enfin, je veux dire... Et connaissant le personnage, si vous vous souvenez, si vous fouillez un peu ce qu'il a pu dire par rapport à l'accidentologie, à la vitesse, hein, c'est quelqu'un qui est pour les radars à 200%, voire 300%. Claude Gaux dit que la défaillance technique n'est pas une cause prouvée d'accidentologie à hauteur des espoirs, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Donc ça bat en brèche ce que peut mettre en avant la société d'ECRA, et il faut qu'on poursuive le combat, quoi. Il faut qu'on aille expliquer aux gens que les défaillances techniques ne sont pas vraiment à l'origine des accidents.
Affaire à suivre.
Shoes.
Au téléphone, nous avons le président du motoclub Memakwa, c'est Francis Deluché. Francis, bonjour.
Oui, bonjour.
Francis, tu es donc le président du motoclub qui organise cette fameuse concentration Les Mille Vaches, voilà. Sur le plateau des Mille Vaches.
Oui, sur le plateau des Mille Vaches.
Faudrait-tu nous situer un peu où se trouve ce fameux plateau des Mille Vaches ?
Alors, le plateau des Mille Vaches, sur une carte de France, c'est entre Limoges et Clermont, légèrement au sud.
Donc c'est un endroit où il fait très froid à l'hiver ?
Alors oui, l'hiver est assez rude sur le plateau de Mille Vaches, hein, ça peut descendre jusqu'à moins 10, moins 15 certains hivers et avec chaque hiver de la neige.
Donc voilà, donc ce rendez-vous, c'est une concentration, c'est une hivernale en fait.
Voilà, c'est une hivernale, oui.
Hein, qui aura lieu donc cette année, du 8 et 9 décembre.
Voilà, 8 et 9 décembre, donc toujours le deuxième week-end de décembre pour l'hivernale des Mille Vaches.
Alors donc c'est la quatrième édition, mais en fait cette concentration existait déjà depuis 1969.
Oui, tout à fait. La première édition donc a eu en 1969 jusqu'en 1974 au grand public. À l'époque, elle était organisée par le motoclub 95, donc de la région parisienne. Et donc abandonnée au grand public dû à leur... au nombre de participants qui était très grand et donc ça devenait ingérable.
Alors ça faisait combien très grand, le nombre de participants à la louche comme ça là ?
Au plus haut c'est monté à 3000 participants.
3000 participants, oui c'est pas mal. Hein.
Oui tout à fait, et donc après de 75 à 79, ils l'ont continué sur invitation. Voilà.
Et après ça s'est arrêté ?
Voilà, ça s'est arrêté et nous on a décidé, donc comme on est le motoclub local, en 2009, de reprendre cette hivernale des Mille Vaches. Et nous sommes déjà arrivés au bout de 4 ans, donc cette année, ça sera la quatrième édition de la reprise.
Oui.
Nous sommes déjà arrivés à 3000 participants.
3000, eh bien, ça va aller vite, hein ?
Tout à fait.
Ça va monter en nombre.
Eh bien, aujourd'hui, on peut compter déjà 1600 inscrits, donc
d'accord.
Ce qui est conforme à peu près au même moment que l'année dernière.
Et c'est pas fini, hein, parce que c'est avant le 9-11, la réservation.
Voilà, tout à fait. Il y a encore une bonne quinzaine de jours pour s'inscrire, donc pas hésiter à s'inscrire rapidement.
Oui. Et voilà. Alors, je sais que l'année dernière, il n'y a pas eu trop de neige. Hein.
Non, on a eu froid la première année de reprise. L'année d'après, il a fait très froid, mais beau. Et l'année dernière, c'était clément, mais assez humide. En fait.
Voilà, donc c'est 10 euros par personne, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.
Et tout à fait.
Hein, il y a un emplacement. Donc pour 10 euros, on a droit à l'emplacement bivouac plus le millésime 2012, c'est-à-dire la médaille.
Voilà, il y a un petit pack cadeau. Donc c'est le millésime 2012 qu'on accroche à la médaille, qu'on peut acheter sur place. Sinon, le bois est gratuit.
Alors ça, c'est bien que le bois est gratuit, parce que j'en connais d'autres où le bois, enfin d'autres hivernales, hein, où le bois est payant.
Les hivernales à l'étranger.
Oui. En Allemagne, par contre.
Voilà, où on paye.
Exemple.
C'est
2 euros. C'est 2 euros, il a bûche. Et ça va vite, une bûche.
Tout à fait. Donc, en Corrèze, on a beaucoup de bois.
Voilà.
On s'arrange avec les bûcherons et puis... ça nous coûte pas trop cher, donc on l'offre gracieusement au motard.
Très bien. Alors donc ambiance musicale, il y a un concert de prévu, comment ça va ?
Voilà, une petite ambiance musicale, mais c'est vraiment un fond musical au niveau de la buvette pour combler les trous, on va dire, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup.
Oui.
Parce que l'ambiance est dense au bar, mais bon, le concept est surtout de ne pas faire de concert, de reprendre un concept comme à l'époque dans les années 60.
Voilà, on revient un petit peu à l'origine de cette manifestation.
Tout à fait, oui.
Voilà, donc, et en plus, je vois qu'il y a des WC pour ces dames. Faut pas oublier les dames hein, qui font aussi également maintenant de plus en plus l'hivernal. Hein,
oui, c'est pas encore 50%.
Non, mais il n'y a pas la parité encore, mais ça vient. Hein.
Voilà, 25 à 30% de femmes qui,
c'est pas mal, hein.
Qui suivent le bonhomme, on va dire. Hein.
Et qui viennent même seules, peut-être.
Comment ?
Et qui viennent même seuls.
Ah, il y a seuls, en moto, bien sûr. Oui. Il y en a une bonne petite partie aussi, oui.
Très bien. Donc l'accueil des motards se fait à partir de vendredi ou samedi ?
Oui, on ouvre le point le vendredi. Donc il y a un accueil sur place donc par les membres du motoclub Memakwa pour le petit pointage et la remise du pack cadeau.
Oui.
Et après le samedi, à partir du samedi matin à 10h, c'est à la salle des fêtes de Memak. Donc ça nous permet de faire marcher le commerce sur la région de Memak.
Oui.
Memak, Mille Vaches, il y a environ 10-12 kilomètres. Voilà.
C'est une grande ville, Memak ?
C'est une petite ville, un petit bourg de 3000 habitants.
Très bien. Et donc, je vois aussi inscription gratuite pour les anciens portant la médaille des 1000 vaches des années 70.
Voilà.
Donc alors, années 70, à mon avis, il devait avoir... Il y a Christophe qui me fait... ils ont la barbe blanche. Oui, ils sont encore vivants, hein.
Oui, oui, tout à fait. C'est en pleine forme. À chaque fois, on en voit, on va dire.
Il y en a qui reviennent encore, là?
Oui.
Depuis 4 ans, là, vous en avez
40,
vu?
30 à 40 anciens qui reviennent.
Ah ouais, carrément. Ah
ouais, ouais, chaque année.
Ça, c'est pas mal.
Fièrement la médaille de l'époque.
Il y a deux ans, il y avait eu un compte-rendu, justement, de la manifestation dans les pages de Motomag.
Voilà, c'est notre correspondant Motomag. Hein, fait un spécial sommaire Motomag. Donc,
Oural,
qui te parle.
Qui avait traversé, je sais pas si tu te souviens, et qui avait traversé tout le Massif central.
Voilà,
et il gelait là, Pierre Fendre.
Leur périple aux 1000 vaches.
Ouais. Bon, absolument.
Et effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup de sidecars? La majorité, c'est quoi? C'est des solos, sidecars?
C'est la majorité de sidecars, parce que bon, avec les conditions météo qui sont assez difficiles l'hiver, donc dès que ça glisse un peu, il vaut mieux avoir trois roues, on va dire.
Bon, depuis...
Il y a vraiment des motards qui, en deux roues, se débrouillent très très bien et, viennent sans problème.
Et depuis 4 ans, vous avez eu la neige? Une année ?
On a eu de la neige à la reprise en 2009, dans la nuit de samedi à dimanche.
D'accord.
Et sinon, on est toujours tombé entre de grosses averses de neige. C'est-à-dire que le week-end d'avant, il en tombait beaucoup, le week-end d'après, mais jamais pendant. Donc cette année, c'est la bonne.
Bon, écoute, je pense qu'on va faire le déplacement, nous. On va venir.
Ouais,
on va venir.
Vous serez bien accueillis.
Écoute, de toute façon, il faut s'inscrire. Hein. On peut pas venir comme ça sans inscription au préalable. Hein.
Alors, il y a que les étrangers qui peuvent s'inscrire sur place parce que certains pays ne peuvent pas régler par chèque. Mais nous, c'est très important pour l'organisation, pour qu'on soit bien calé au niveau de toutes les quantités et d'accueillir le mieux possible les motards. L'inscription au préalable est obligatoire.
Donc, il faut aller sur le site du motoclub ou comment ça marche?
Vous allez donc sur le site du motoclub de Mémac, www.mc19memac.com, tout en minuscules, et vous téléchargez donc le bulletin d'inscription et vous le renvoyez à l'adresse indiquée dessus.
Très bien, et c'est 10 euros, on rappelle, c'est 10 euros par personne. Hein.
Voilà.
Bon, c'est pas très cher encore. Hein.
Non, la première année, on l'avait fait à 12 euros pour faire un petit clin d'œil à la première année en 69, qui était de 12 francs.
Ah oui, et c'était 12 francs. Ah oui, c'est pas pareil, 12 francs à 12 euros. Hein.
Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Et on est redescendu à 10 euros simplement pour des soucis de monnaie, pour nous éviter.
Je comprends bien. Ouais, voilà. Il fallait rendre la monnaie. Ouais, c'est bon.
Voilà.
Et puis alors, il y a quelque chose de très strict.
Oui.
C'est interdit aux 4 roues.
Ah oui, oui.
C'est pas la peine de se pointer en bagnole.
Ah non, vous serez refoulé.
C'est marqué sur l'inscription. Hein.
Ouais, la route
en rouge.
Cette année.
Ouais.
Il y aura des contrôles à 2 km du bivouac.
Ah oui,
alors. Ils passeront uniquement du 2 ou 3 roues.
Il y a Christophe qui me dit en quad.
En quad, à partir du moment où le véhicule est un guidon, c'est considéré comme une moto.
Ah voilà, c'est ça, il faut un guidon.
Voilà, donc il n'y a pas de souci.
D'accord. Eh bien écoute, Francis, merci. Alors ton prénom c'est Bill, ton surnom. Francis de Luchet, et en fait on te surnomme Bill.
Voilà,
tout le monde te connaît sous le nom de Bill.
C'est Bill, tout à fait, ouais.
Bon, Bill, bonne chance pour cette 4e édition. Là, hein.
Merci bien, ça se présente bien.
J'espère qu'il y aura de la neige et qu'il fera bien froid, parce qu'une hivernale, hein, c'est le but, hein, c'est d'avoir bien froid.
Hein. On l'a commandé, le froid arrive dès ce week-end.
Très bien, on te remercie d'avoir répondu aux questions de Kikinkout et Tupal sur Campus. Merci, au revoir.
Merci, à très bientôt, au revoir.
Out.
Bon Christophe, un gros dossier sur le salon de Cologne dans Motomag de novembre.
Et oui, c'est le salon avant celui de Milan là qui va se dérouler bientôt et donc la découverte de nouveaux modèles. Alors pas de grandes nouveautés, mais justement le journal revient sur tout ce qui s'est fait, les évolutions. Hein, alors plutôt des évolutions que des révolutions, quoique. Hein, j'ai relevé par exemple que la GS1200 qui est quand même la moto la plus vendue hein, passe au refroidissement liquide. Donc les amateurs de flat twin vont dire c'est plus la même moto, qu'est-ce que c'est que cette affaire. Bon, donc voilà des événements techniques quand même majeurs.
Petite parenthèse, c'est qu'avec tous les concurrents qui sont apparus il y a deux ans, enfin au salon l'année dernière, à mon avis, ce ne sera peut-être plus la première moto de vendue. Hein.
Alors justement.
Parce que toutes les marques se sont.
Alors,
ils sont accrochés derrière. Hein.
On en parlait hors micro tout à l'heure, mais bon, cette moto-là en particulier, elle devient hyper technique et même technologique. Et puis, on en arrive maintenant avec des cartographies de réglage de moto, de suspension.
Ça, c'est pour de la moto pour aller rouler vache.
De programme, etc.
Eh bien, oui. Ou électronique qui gèle, c'est pas possible.
Voilà, alors on en fait maintenant des trails qui deviennent des autoroutières et des GT.
On sait plus trop, voilà. Effectivement, alors, si c'est trail, c'est routier, c'est quoi.
Donc justement, ils reviennent sur 32 ans de GS et puis tous les modèles là sont présentés avec toutes les évolutions. Alors bien sûr, après on passe en revue toutes les marques qui sortent des produits, donc soit complètement nouveaux, soit. Qui évolue toujours sur le salon de Cologne. Donc on aborde l'équipement et là je voulais faire le parallèle. Tout à l'heure on parlait du contrôle technique et aussi du brassard, puisque je rappelle, il y a un article d'ailleurs qui est consacré. Dans deux mois on passera au brassard, hein, donc cette signalétique.
Dans deux mois on passe au brassard.
Et oui, le brassard devient obligatoire.
Le brassard devient obligatoire.
Ah, bon ? Ah d'accord.
Je
découvre.
Petit rappel historique, c'est sous l'ère Sarkozy, donc au début de l'année, que cette disposition a été prise avec une application au 1er janvier. Donc aujourd'hui, le monde de la moto va se mobiliser en novembre, justement pour essayer de faire fléchir et d'inverser la tendance. Parce que si rien ne se fait, eh bien on devra tous arborer soit un équipement rétro-réfléchissant sur le buste, donc de 150 cm², et si à défaut, c'est le brassard qu'il faudra avoir sur le bras. Donc aujourd'hui, et c'est justement pour ça que j'en parle, parce qu'au salon de Cologne, on voit apparaître maintenant des équipements luminescents sur les casques, sur les blousons, des diodes lumineuses qui sont intégrées dans le textile des blousons, et il y a un Hollandais qui vient de sortir un produit rétro-réfléchissant, tout à fait particulier, on a l'impression de retrouver les vestes de la DDE et des choses vraiment flashy. Donc il y a une évolution de la technique, de l'équipement qui permet donc aux motards d'être vus à défaut de
question d'aller au mariage en moto.
Alors hein. Pour revenir sur le brassard,
tu vois,
si la disposition rentre en vigueur, le défaut d'équipement du brassard, c'est une amende de 68 € et 2 points de permis.
Ah, quand même.
Donc voilà, un certain décalage entre la faute commise, mon Dieu, quelle faute, et la sanction. Alors sur les machines, donc dans la continuité du salon de Cologne, un gros dossier aussi sur des matchs entre deux modèles d'une même marque. Et là, caréné, non caréné, 600, 1200, gros cube, gamme intermédiaire, routière ou trail. Donc en fait, en prenant des machines dans la même marque, des modèles donc qu'on met en concurrence, on aide donc le candidat à l'achat sur différents critères donc, qui lui permettent de faire son choix technique et aussi économique. Toujours sur les machines, une enquête sur l'environnement en ville. On parlait tout à l'heure de véhicules électriques. Donc il n'y a pas que les véhicules électriques. On peut lutter contre la pollution avec des modèles thermiques qui sont plus économes. Hein, dans les programmes, dans les machines qui sont présentées à Cologne, je disais tout à l'heure à Guy, il y a une 1100 qui consomme 4 litres au 100. Bon. Et Honda sort des scooters aujourd'hui qui consomment 30 à 40% de moins que tous les scooters du marché. On arrive à des consommations aujourd'hui qui sont de l'ordre de 2 litres, 2 litres et demi. Alors que la plupart des scooters consomment 3 litres et largement plus. Donc on voit maintenant une tendance quand même vers l'économie d'usage. Et donc, évidemment, s'il y a moins de pétrole consommé, c'est aussi moins de pollution dans nos villes, dans nos centres urbains. Et donc, pour terminer cette partie-là, sur, on parlait tout à l'heure des gros trails. J'ai noté quand même, et ça, je le disais, j'aime bien l'aventure, sur ce programme qui a été proposé donc, dans les Alpes italiennes. 24 heures de moto, 550 km de chemin, enfin, pas que des chemins, mais 70% de chemin, avec 28 600 mètres de dénivelé, 5 Français engagés, hein, une centaine de participants, et essentiellement des gros trials mono, multicylindres, donc des anciennes, hein, pas d'électronique, hein, des bons gros trials, hein, plus de 150 kilos.
Deux bobines, une bougie,
voilà, déjà
un rupteur.
Ça limite, et ça c'est la Hard Alpi Tour, donc ils reviennent. Il y a vraiment de très belles photos qui sont présentées, et je vous invite vraiment à découvrir ce sujet.
Christophe, pour terminer cette émission et ce sommaire du MAG du mois de novembre, notre ami le président Patrick Jacquot, qui a été distingué ou a reçu une médaille, c'est ça du...
Voilà, Patrick Jacquot, donc, qui préside, enfin qui administre plutôt la mutuelle des motards, a été distingué parmi un échantillon de 16 personnalités, donc par un jury de journalistes, pour spécialisé pour son engagement sociétal et citoyen. Et donc, ce qui est particulièrement réjouissant, bah, c'est que, au travers de cette distinction, c'est un petit peu le mouvement motard qui est honoré, hein, et en particulier la FFMC pour tout le combat qu'elle a mené, puisque la Mutuelle des motards trouve son origine, je dirais, avec la création de la fédération il y a un peu plus de 30 ans maintenant, pour la défense du monde motard. Et alors, la Mutuelle s'est aussi faite distinguer par la remise d'un trophée, un trophée de l'assurance catégorie innovation et relations, pour toute une enquête qu'elle a menée auprès des usagers sur d'abord les casques, c'était l'année dernière au moment du salon de la moto, le vol, la circulation interfile, et donc elle permet de faire connaître aujourd'hui la problématique des usagers du deux roues, hein, auprès des pouvoirs publics au travers de ces enquêtes. Donc cette enquête s'appelle Deux Roues Lab, et bien sûr elle est appelée à être développée sur d'autres thématiques. Alors, pour terminer, deux rubriques régionales. Un petit flash sur un retour sur l'opération à Neuchâtel-Ardelot, donc un rassemblement, le Opal Shore Ride 2012, donc les Harley-Davidson. Ils étaient 3500. Donc la prochaine édition, c'est le 21 et le 22 septembre 2013. Et puis pour l'agenda également, là c'est plus proche, le 17 et le 18 novembre, ça sera la Ronde des Sables à Loon Plage. Et donc le spectacle sera dans le sable, donc le 17 et le 18 novembre prochain.
Très bien, voilà. C'en est fini pour ce sommaire.
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, oui, mais
on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps.
On va laisser un petit peu la conclusion peut-être à Guy. Donc on va se retrouver le mois prochain, Guy.
Absolument.
Au mois de décembre.
Bien, oui.
Comme ça va vite.
Alain Saint-Nicolas, comme ça va vite, c'est dingue. Donc ce que je voulais dire, donc le brassard, comme disait Christophe tout à l'heure, le brassard s'est maintenu, c'est au 1er janvier.
La petite question, les plaques alors.
2013, pardon.
La dimension des plaques.
Il n'y a pas de nouvelles par rapport à ça non plus. C'est le package du CICSR, j'ai plus la date, mais de 2011 de mémoire. Et donc, parmi les mesures qui sont maintenues, donc, c'est le brassard. Par contre, l'éthylotest, la VALS a repoussé à son application au 1er mars prochain. Ça devait être au 1er novembre. Ça a été repoussé au 1er mars. La raison invoquée, c'est faute d'approvisionnement. Là aussi, c'était une affaire de lobbying. Donc le brassard, on se mobilise parce que il faut qu'on mette bas cette connerie. Voilà, hein, exactement.
Encore une fois,
exactement. Et donc dans Motomag, effectivement, vous trouverez ou sur motomag.com le site, vous pourrez trouver une affiche.
Christophe nous montre la deuxième page de Motomag.
Un pigeon casqué.
Réfléchissez.
Et baguette jaune.
Voilà, c'est ça.
Un beau pigeon, hein. Sans enchère. Hein.
Bon, très bien, Guy. Ben voilà, c'est fini.
Donc, c'est fini. Hein,
toutes les infos de la FED. Hein. Voilà. Voilà, Christophe également. Bon, ben on se retrouve le 2 normalement, le 2 décembre. Hein. Pour la dernière de 2012.
La dernière de 2012 et la première de 2013, puisque le magazine
et
de
la
décembre,
première, oui,
ça sera décembre, janvier.
C'est un double. Double mois.
Un magazine.
Très bien, on vous souhaite de passer un bon dimanche.
Bon dimanche.
Et puis on se retrouve dimanche prochain sur les ondes de Radio Campus 106,6. Merci, passez un bon dimanche.